profiter de cette anecdote concerne un auteur qui s'appelle Edwin Peter. Le Peter en question est un héros pratiquement d'un film de Frank Capra. On dirait un scénario de film de Frank Capra. C'est assez extraordinaire. Il est donc biologiste, il a passé une bonne partie de sa vie à essayer de sauver de l'extinction une espèce très rare de poisson qui s'appelle Cyprinodon diabolis, quel beau nom, qui a pour particularité de vivre dans des petits îlots aquatiques au beau milieu du désert. C'est déjà à peine croyable ce truc-là. Je ne savais même pas qu'il y a des poissons au milieu du désert. Bah si, c'est possible. Cette espèce était menacée par des agents de l'agrobusiness qui pompaient l'eau des sols à des fins d'irrigation. Il n'y a déjà pas beaucoup d'eau dans le désert, il trouvait moins de la pomper celle-là. Donc pour les empêcher, Edwin Pister est allé jusqu'à porter cette affaire devant la Cour suprême des États-Unis, et là c'est le happy end hollywoodien, il a gagné son procès. Aujourd'hui, le Cyprinodon diabolis, c'est une espèce protégée grâce à lui. On lui demandait souvent pourquoi il dépensait toute cette énergie pour un misérable poisson dont il était bien obligé de reconnaître, lui, Edwin Pister, qu'il n'avait aucune utilité particulière. Le Cyprinodon n'a pas d'intérêt scientifique particulier, on ne peut même pas le manger, il est trop petit, il n'est pas beau, enfin, rien, quoi. On lui demandait tout le temps, mais à quoi ce poisson est-il bon, après tout ? Pourquoi vouloir le préserver ? De guerre lasse, Edwin Pister a fini par retourner la question de ses interlocuteurs en leur demandant, et vous, à quoi êtes-vous bon ? Question intéressante, parce qu'elle invite à reconnaître que, quand bien même, nous ne serions bons à rien. Puisqu'on parle de cinéma, une petite réplique d'un film du Schpunz de Marcel Pagnol, vous savez, ce n'est pas que tu es bon à rien, c'est que tu es mauvais à tout. Quand bien même nous serions mauvais à tout, mauvais professeur, mauvais ami, mauvais père de famille, donc quand bien même nous n'aurions aucune valeur instrumentale, nous ne laissons pas d'être investis à nos propres yeux d'une valeur intrinsèque. Eh bien, Edwin Pister invitait ses interlocuteurs à se demander si la valeur intrinsèque que chacun est très disposé à se reconnaître en soi-même ne pourrait pas être étendue à d'autres composantes de la nature. Est-ce qu'il est absurde de considérer que les êtres vivants ont une dignité qui leur est propre, quelle que soit leur utilité pour nous ? Et c'est affaire de respect et non pas de spéculation sur nos propres intérêts à plus ou moins long terme. Vous voyez, ce n'est pas du tout le même schéma de réflexion. Ce changement considérable de réflexion, de type d'approche de l'environnement, a été très bien saisi par un autre auteur australien, celui-là, qui est assez connu, enfin, qui était assez connu, je crois, c'est des études, qui s'appelle John Passmore, dans un livre qui est peut-être le premier classique de l'éthique environnementale, intitulé, sorti en 1974, intitulé Responsibility for Nature. Le titre est intéressant, parce que c'est un résumé de la thèse. Responsibility for Nature, et non pas Responsibility to Nature, ce qu'on aurait pu attendre comme titre. Là, ce livre-là est une critique de fond de l'éthique environnementale, cela dit en passant, mais contrairement à ce que j'ai pu lire à droite et à gauche, sous la plume de ceux que je citais au tout début, le premier livre consacré intégralement à l'éthique environnementale est une critique de fond de l'éthique environnementale qui est en train de se mettre en place, par où on voit que ce courant philosophique est tout ce qu'on veut, sauf dogmatique. C'est rare, ça, quand même, que des livres pareils apparaissent. Bon, l'idée de Passmore est simple, elle est résumée dans le titre, c'est que il n'y a pas de sens à considérer que la nature, à traiter la nature ou les entités du monde naturel comme des objets de considération morale. La nature n'est pas une personne, la nature n'est pas une quasi-personne. Et lorsqu'on parle de responsabilité, il est clair qu'il ne peut s'agir que d'une responsabilité à l'endroit de la nature, for nature, c'est-à-dire que c'est une responsabilité humaine, qui prend en considération cette orientation des actions ciblées vers la nature, parce qu'il y a des effets en retour dans la sphère des relations humaines. Donc c'est une responsabilité for nature, et ce n'est pas une responsabilité concernant la nature, to nature, c'est-à-dire que les hommes ne sont pas responsables devant la nature, on n'a pas de compte à lui rendre. Voilà, c'est ça la thèse de Passmore, c'est un livre intéressant, et jusqu'aujourd'hui ça se lit avec intérêt. Eh bien, toute l'originalité, pour moi, tout l'intérêt de l'éthique environnementale, c'est de penser une responsabilité to nature. Et c'est de ce point de vue-là que le concept de valeur intrinsèque des entités du monde naturel joue un rôle décisif. De nombreux éthiciens de l'environnement estiment que tous les espoirs d'établir de manière satisfaisante une éthique de l'environnement reposent sur la possibilité de découvrir dans la nature une valeur intrinsèque en tant que fondement des obligations de l'homme à l'endroit de la nature. Alors bien entendu, je tenais à dire ça, comme je vous ai dit, il ne faut pas écraser toutes les différences. Tous les éthiciens de l'environnement sont très très loin d'être d'accord avec un tel projet. Ils considèrent qu'on n'a pas à afficher des ambitions aussi délirantes, aussi radicalement novatrices que celles d'une éthique de la valeur intrinsèque, et qu'on peut se contenter d'élaborer un anthropocentrisme éclairé, élargi, prudentiel, qui proposera une vision plus large des intérêts que les hommes peuvent avoir à préserver la nature. C'est la position que défend, je l'ai cité, j'ai pas mis son nom là-dessus, c'est la position que défend Ryan Norton. Notamment dans un livre d'inspiration, il est le chef de proue de ce qu'on appelle le pragmatisme écologique, donc une des variantes, mais vraiment importante, de l'éthique environnementale. Et il a défendu la thèse dont je vais vous parler tout à l'heure dans un grand livre, qui est un grand livre de philosophie, qui est un pavé, qui fait plus de 500 pages, intitulé Sustainability, durabilité, sur le développement durable. On parle de pragmatisme écologique. En l'occurrence, parce que les penseurs qui se rattachent à ce courant estiment qu'il est contre-productif de parler du concept de valeur intrinsèque. Parce qu'en parlant de cette manière, on rajoute une difficulté philosophique, une obscurité philosophique aux interminables débats où s'affrontent les intérêts particuliers, où s'affrontent les intérêts particuliers des uns et des autres. Lorsqu'on prend place à la table des négociations, c'est ce que dit Norton, qui n'est pas délirant, lorsqu'on prend place à la table des négociations, où différents projets de politique environnementale vont être évalués, le moment d'exposer un concept aussi obscur que celui de valeur intrinsèque des entités du monde naturel n'est pas particulièrement bien choisi. La tâche d'évaluer des projets concurrents, d'arbitrer entre des valeurs en conflit, est déjà suffisamment complexe comme ça. D'où la décision des pragmatistes de se référer à la thématique du développement durable, qui a pour elle un double avantage. D'abord, elle ne repose pas sur une quelconque métaphysique fuligineuse de la valeur intrinsèque. D'autre part, elle fait appel à une valeur qui est déjà publiquement reconnue, qui offre immédiatement un terrain d'entente où on va pouvoir discuter, qui est la responsabilité que nous avons de préserver, de protéger les systèmes naturels au nom de l'usage que peuvent en avoir les générations futures. Vous voyez, générations futures versus valeur intrinsèque. La thématique du développement durable n'est donc pas du tout étrangère aux penseurs anglo-américains, mais c'est ce que je voulais vous montrer, lorsqu'elle est développée, c'est sur le mode d'une rupture avec ce qui fait toute l'originalité de l'éthique environnementale, c'est-à-dire le concept de valeur intrinsèque. Ce qui est nouveau et ce que je trouve intéressant philosophiquement, c'est quand même l'idée d'étendre le champ de considération morale à des entités non conventionnelles, telles que une plante, telles que un animal individuel ou une espèce, ou même l'ensemble des écosystèmes. De ce point de vue-là, je vais dire encore quelques mots sur eux, parce que s'ils sont absents, il y a quand même bien le sens. Calicott et Rolston, qui ont pour point commun de développer tous les deux une éthique de la valeur intrinsèque, sont beaucoup plus représentatifs de l'éthique environnementale. Alors, impossible, non seulement pour des questions de temps, mais parce que c'est vraiment complexe de rentrer dans le procédé par lequel ils essayent de démontrer qu'il existe bien une valeur intrinsèque dans le monde naturel. Impossible aussi de montrer comment ils déduisent de cela des schémas rationnels d'aide à la décision en matière de politique environnementale, parce que c'est quand même ça le but du jeu. Je voudrais simplement, pour finir, et c'est ce que j'ai annoncé au tout début, défendre l'intérêt du concept de valeur intrinsèque, qui est le concept le plus critiqué, en essayant de montrer que d'abord il n'est pas si obscur que ça, il n'est pas aussi fuligineux, et qu'il n'est pas étranger non plus à la manière dont on pose les problèmes dans un contexte franco-européen. C'est un concept qui est déjà d'une certaine manière opératoire en Europe, dans le champ de la réflexion juridique et économique. Et il y a un point de jonction ici qui me semble très précieux et qui permet de déplier l'espace commun d'interlocution dont je parlais au début. Dans le domaine juridique, je me contenterai de citer le préambule de la Convention internationale sur la diversité biologique qui est entrée en vigueur en 1993. Je lis le texte. Les parties contractantes se déclarent conscientes de la valeur intrinsèque, de la diversité biologique et de la valeur de la diversité de ces éléments constitutifs sur les plans environnemental, génétique, social, économique, scientifique, éducatif, culturel, esthétique. Valeur intrinsèque. Alors là, c'est clair, c'est l'impact de l'éthique environnementale sur ce texte-là. Et on pourrait se demander. Alors, c'est préambule de la Convention internationale sur la diversité biologique. Et c'est un instrument contraignant, ça. Et c'est intéressant parce que je crois que c'est la première fois qu'on voit apparaître un concept pareil dans un instrument international contraignant. Et on pourrait se demander, bon, je ne développe pas, là, je n'aurai pas le temps de réfléchir là-dessus, si on peut motiver, justifier la préservation de la diversité en se passant d'un tel concept. Je ne pense pas. Et c'est assez marrant de monter chez Brian Norton, qui est pourtant, alors lui, farouchement opposé à l'usage du concept de valeur intrinsèque, que même lui, il finit par craquer. Et lorsqu'il en vient à parler de la biodiversité, il faudrait que je vous montre ça dans les textes, il finit, alors évidemment, il tortille, ce qui ne veut pas le dire, il finit par solliciter ce concept-là. Deuxième domaine que je trouve intéressant, où là, il y a un point de jonction évident, c'est dans le domaine juridique. Dans le domaine de la pensée économique, qu'est-ce que c'est après tout que le concept de valeur intrinsèque des entités du monde naturel, si ce n'est l'exact analogue du concept de valeur d'existence, dont la définition classique est « valeur qu'un individu attache à la simple existence d'un actif environnemental ou culturel particulier, indépendamment de tout usage éventuel de cet actif ». L'idée même d'une valeur de non-usage, d'une valeur non marchande, d'une valeur de conservation, va dans le même sens que le concept de valeur intrinsèque. C'est l'idée que tout n'est pas substituable, que tout ne peut pas se réduire à une analyse coût-bénéfice. Ça fait songer, je finirai avec ça, là, vraiment, je boucle, ça fait songer à un article avec lequel je conclurai, de Martin Krieger, qui est sorti dans les années 70, intitulé What's Wrong with Plastic Trees, article, encore une fois, assez marrant, un article qui a suscité pas mal de polémiques. L'idée, c'est un urbaniste, Martin Krieger, et il dit, donc vous avez What's Wrong with Plastic Trees, les arbres en plastique, de point, c'est quoi le problème? Et donc il dit, d'un point de vue d'urbaniste, c'est très bien les arbres en plastique. Parce que la technologie, l'industrie a fait tellement de progrès là-dedans que pour faire des arbres en plastique, personne n'y verra la différence. On pourra continuer de se mettre à l'ombre de ces arbres en plastique, on pourra continuer de humer le parfum de ces arbres donc, chimiquement reconstitués, personne n'y verra la différence, mais la municipalité, elle va voir la différence, parce qu'il n'y a plus besoin de les soigner, plus besoin de les entretenir, il n'y a plus de feuilles mortes à ramasser en automne, c'est un vrai bonheur. Et on lui a répondu, non, c'est pas pareil. C'est pas pareil, un arbre en plastique, c'est pas un arbre naturel. Même si c'est indiscernable, il reste que l'arbre naturel, il vaut d'être préservé pour lui-même, indépendamment de l'utilité de l'usage qu'on peut en avoir. Bref, valeur intrinsèque, quoi. Mais je trouve que dans cet article-là, c'est net, on ne peut pas être d'accord avec ce que dit ce qu'il y a. Bon, dernière proposition et je vais conclure. On voit bien quels services les éthiciens de l'environnement pourraient rendre à leurs homologues européens et comment la jonction entre ces différents courants de pensée pourrait s'effectuer. Les méthodes économiques d'évaluation des biens environnementaux et les innovations juridiques visant à reconnaître un droit inhérent à tous les éléments constitutifs de la diversité biologique d'exister, indépendamment de leur valeur pour l'humanité, trouvent dans les élaborations des penseurs de l'éthique environnementale un fondement philosophique. Il ne s'agit pas de dire que le concept de valeur d'existence ou le concept de valeur intrinsèque de la diversité biologique emprunte au concept de la valeur intrinsèque élaborée en éthique environnementale. Ça s'est probablement constitué indépendamment, je veux bien le croire. Il s'agit de dire que le mérite de l'éthique environnementale, c'est qu'elle se met en frais de justifier philosophiquement le concept de valeur intrinsèque et qu'à ce titre, elle peut prétendre rendre plus intelligibles les concepts mis en œuvre en droit et en économie. Le concept de valeur d'existence ne pointe-t-il pas de façon intrinsèque, si j'ose dire, en direction du concept de valeur intrinsèque? Si oui, alors il est possible et peut-être même nécessaire de relier ces divers courants de pensée, de les faire dialoguer, sans écraser les différences, mais au contraire en tirant le plus grand parti possible des différences irréductibles. Voilà, c'est pour un tel dialogue que je voulais plaider ce matin. J'ai beaucoup débordé.
Bien, je crois qu'on peut remercier Hicham de nous avoir fait découvrir un domaine dans lequel d'entre nous ne sommes pas spécialistes et en plus avec un sens de la pédagogie qui est, je crois, de la clarté relativement remarquable. Mais entendu, ça demeure difficile parce que nous ne sommes pas spécialistes. Alors, je crois que franchement, là, il y a une cohérence qui se tisse malgré l'à peu près de la. Enfin, bref, c'est encore plus cohérent qu'on aurait pu le penser. Et je crois, peut-on espérer, que Yann pourra permettre de non pas seulement faire une synthèse, mais en tout cas de mettre encore une fois des liens entre les différentes interventions. Donc on va commencer rapidement, 10 minutes uniquement, quelques échanges, parce qu'il ne faut pas grignoter l'intervention qui suit. Et je crois qu'il y a vraiment des choses en face avec l'actualité, puisque je ne sais pas si vous avez suivi l'affaire Total avec les nouvelles jurisprudences, où je crois, si j'ai bien compris, avec la reconnaissance unique en France de dommages à l'environnement, il est une question, peut-être, dans le droit de reconnaissance de la nature et de l'environnement comme sujet, en tant qu'on peut lui faire dommage et qu'il y a une indemnité versée à ceux qui sont responsables, peut-être, à savoir les collectivités territoriales, sont responsables, peut-être des représentants de l'environnement par rapport au droit. C'est des choses qui sont. Voilà, juste le débat.
Monsieur, j'aurais aimé situer des penseurs français que dont tu n'as pas du tout signalé l'existence, comme Dominique Gour et comme Edgar Morin.
Oui, Elisabeth de Fontenay.
Voilà, oui.
Elisabeth de Fontenay, qui
est très intéressant. Sur les animaux, mais elle ne fait pas l'écologie. Moi, je préfère parler de types comme Bruno Latour.
Oui,
Latour. J'aime beaucoup les penseurs européens, par exemple, il y a aussi l'allemand, son échappe, la société du risque.
Oui, Ulrich Beck.
Voilà, pour moi, c'est du clip à Bourg. Dominique Gour, je ne suis pas fan. Je le connais un petit peu, on est en communication l'un avec l'autre, je suis pas fan de ce qu'il fait. Et sur l'éthique environnementale, dans l'histoire dont je parlais de la réception, il aurait sa place, c'est pas en bon terme, parce qu'il a écrit des choses qui sont vraiment pas terribles, quoi, sur l'éthique environnementale. À chaque fois qu'il parle de l'éthique environnementale, déjà, ça commence mal, il cite pas les penseurs de l'éthique environnementale dont je parle, Caldicott, Rostand, ou Norton, ça c'en est. Il cite tout le temps Hermès et la deep ecology. Pas de bol, c'est pas de l'éthique environnementale. Il y a un rapport, alors je le fais figurer dans le petit volume que j'ai publié sur l'éthique environnementale, j'ai traduit un texte de Hermès parce qu'il a exercé une influence lointaine sur le courant, mais ce n'est pas de l'éthique environnementale, et Bourg ne parle que de ça. Donc je trouve qu'il connaît mal ces questions-là.
Il a fait surtout un travail sur le principe de précaution, mais qu'il a quand même démystifié beaucoup. Bon, mais ça ne t'intéresse pas.
Ah si, ça m'intéresse beaucoup. Ah, mais
alors, contraire, le principe de précaution,
le projet philosophique que je porterais, c'est d'essayer de tirer parti de ces dommages, parce que le principe de précaution est bien entendu étudié aux États-Unis, mais c'est vrai que ceux qui travaillent sur le terme de la valeur intrinsèque ignorent ces questions-là, ils ont tort, c'est intéressant. Ulrich Beck ou Hans Jonas, comment est-ce qu'on peut ignorer ça? Il faut reformuler tout ça, je crois, essayer de combiner ces deux.
Ulrich,
Ulrich Beck.
B-E-C-K.
Ouais.
On l'a traduit que
mais
ça.
Mais Edgar Morin, non, ça ne vous intéresse pas, la pensée complexe? Il vient de sortir un livre qui s'appelle Éthique, quand même. Hein,
oui, ça se trouve, ce n'est pas très développé sur l'écologie. C'est vraiment en passant, quoi. J'aimerais bien qu'il. Mais ça fait longtemps qu'il en parle.
Oui, quand même. Ouais. La nature de la nature, hein, dans cet homme. Dans ses...
Oui, oui, oui.
C'est fascinant au niveau de l'écouter, parce que moi, je suis un profane de la philosophie. Mais en même temps, je suis amené à vous dire, par exemple, dans le rapport de l'homme à la nature, il y a quand même une histoire qui est là, qui est présente par nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Je pense au loup, hein, on nous a enseigné la peur du loup. Et ça, c'est concret pour nous. Un gosse dans la forêt, il a peur du loup avant tout. Et en même temps, on s'aperçoit qu'il y a des débats, je peux finir, justement, entre les bergers qui sont à leur repli et les écolos qui veulent que les loups soient adoptés. Et je discutais un jour avec un voisin qui est professeur d'écologie qui me disait, mais de toute façon, les loups, ils s'en foutent, ils font leur chemin. Et c'est grâce aux progrès technologiques qu'il y aura de plus en plus de loups dans nos montagnes. Donc on arrive aussi à cette notion d'autorégulation qui échappe aux philosophes, peut-être, enfin, les loups s'en foutent de la philosophie. Ils avancent, ils continuent. Et en même temps, la question est finalement, est-ce que. Derrière toute cette réflexion, il n'y a pas surtout une question fondamentale qui revient à l'anthropocentrisme, qui est la survie de l'espèce humaine si elle ne prend pas en compte le critère de l'environnement comme valeur intrinsèque.
Alors, je me dis, pour eux, ça sera une certaine manière de prolonger la valeur instrumentale. On continue de penser toute chose en référence à soi, à sa propre survie, alors que c'est peut-être justement l'origine des problèmes. Est-ce que c'est pas ça qui fait qu'on en est là, justement? On continue de tout penser en référence à notre unité, à l'usage qu'on peut en avoir. Donc, on pose pas le problème en termes de moralité. On continue de fuir ce problème-là. Alors que c'est pas absurde, est-ce que... Alors moi je dis pas que je défends toutes ces positions-là, que je les fais miennes, hein, lorsqu'il s'agit d'intégrer un chien, un chat, etc., dans la communauté des êtres à l'endroit desquels je me connais des devoirs, moi j'ai un peu du mal sur tout ça. Mais ce que je trouve très intéressant, c'est la mise à plat à laquelle il procède, et pourquoi pas, après tout. Et j'étais très embarrassant, au début quand j'ai commencé à travailler là-dessus, ça fait 4-5 ans que je travaille dessus, j'étais complètement paniqué, et je disais, les animaux machines, les cœurs, qu'est-ce que c'est? Vous voyez, je cherchais à trouver appui sur quelque chose que je connaissais, et en fait, je me suis aperçu que je n'ai pas beaucoup d'arguments. Je ne dis pas que je reprends ces positions à mon compte, je dis que ça vaut d'être posé. Alors que avec votre question, on a l'impression que la question morale n'est toujours pas posée.
Oui. Deux observations. Sur l'histoire du christianisme, par quoi tout a commencé, il y aurait beaucoup à dire, parce qu'en réalité, vous avez cité la Bible, donc ça implique toutes les religions du livre. Vous avez raison de dire que si on prend, il n'y a guère que le bouddhisme et le chamanisme, c'est-à-dire le shintoïsme sous sa forme la plus élaborée au Japon, qui reconnaissent effectivement comme kami l'ensemble de tout ce qui est sur la Terre, y compris l'inorganique, ce qui est une grande différence avec la pensée vitaliste, parce que ça, on n'a pas non plus parlé de la différence entre vie. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui récusent l'idée de personne, alors il y a les Marcel Gauchet, machin, eux, disons, ils récusent l'idée qu'on puisse donner des droits à des animaux et à du vivant, et puis il y a ceux qui récusent qu'on puisse donner des droits à un milieu organique, un milieu inorganique, hein, bien que, par exemple, on ait pu montrer que, y compris dans les profondeurs de la Terre, il y a de la sécrétion de vivant à partir de l'organique, enfin de quelque chose qui était inorganique par définition. Mais donc, de ce côté-là, si vous voulez, l'espèce de raccourci, c'est le christianisme par quoi tout a commencé, ne marche pas parce que c'est toutes les religions créationnistes en général et anthropomorphes. Ça, c'est ma première observation. Deuxième observation, sur la valeur intrinsèque, qu'est-ce que vous diriez, et la morale, qu'est-ce que vous diriez du problème, au fond, par rapport à une vision instrumentale, de retourner à la catégorie d'inconditionnalité? Parce que, au fond, quand on dit, quand on trace l'idée que il y a des choses qu'on ne peut jamais traiter en moyen, mais en fin, et enfin inconditionné, c'est, bon, moi je ne suis pas du tout kantien, mais j'avoue que là, c'est un concept extrêmement puissant pour susciter de la alors de la moralité, j'ai horreur du terme, et de l'éthique aussi, mais enfin bon, ça fait rien. Comme économiste, professionnellement, chaque fois que j'entends ça, je ferme les écoutilles. Mais je suis comme philosophe, je les accepte. Mais la valeur inconditionnelle, je vais y revenir tout à l'heure, l'inconditionnalité de quelque chose, parce que tout simplement, c'est quelque chose qui conditionne tout le reste. Par exemple, la biosphère. C'est au nom de la valeur inconditionnelle de la biosphère, qui est la possibilité même qu'il y ait de la vie, alors on retrouve Darwin, qu'on peut dire qu'effectivement, chaque composant complexe d'un univers écologiquement complexe doit être respecté parce qu'il est un facteur d'équilibre et qu'on n'a aucune idée d'ailleurs de ce qui se passe si on le supprime et qu'il peut y avoir un effet d'aide de
perdition. C'est une argumentation qu'on retrouve chez eux.
Oui. Et ça c'est intéressant. Alors je voulais savoir ce que vous en pensiez, si ça retrouve chez eux, ça va très bien, parce qu'à mon avis c'est un langage qui serait plus compréhensible, surtout si on pense le kantisme indécrottable de Luc Ferry et de Marcel Gaucher, qui sont des kantiens, eux, indécrottables et républicains. Mais l'autre chose...
Indécrottable surtout.
Oui, 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 mais républicain aussi beaucoup. Pour moi, ça fait partie de la même crottabilité. Mais l'autre chose qui me... Alors là, c'est une dernière question sur laquelle je voulais avoir votre avis. Est-ce que vous ne croyez pas que dans le concept même de droit et de dommage, qui est toujours... qui crée un vis-à-vis, parce que le droit crée toujours un vis-à-vis. Le droit a besoin de contradictions, de litiges et donc de vis-à-vis et de dialogue. Bon. On est toujours amené à créer, à ériger comme personne des entités qui peuvent être parfaitement abstraites. Et par exemple, un des pas cruciaux qui a été franchi dans le développement du capitalisme, c'est la création de l'entreprise comme personne morale, personne juridique. Et on s'aperçoit que cette création, cette érection d'une abstraction comme entité morale et comme personne morale, dotée des capacités d'action, de décision, de tester, de poursuivre parce qu'on a atteint ses dommages, est au cœur de l'analyse juridique. Donc peut-être qu'au fond, dans l'écologie, le fait qu'on érige en personne morale des objets, des parlements, des objets, hein, pour parler comme Latour, est exactement, va avoir le même rôle de développement.
Eh bien, vous ne pourrez pas si bien dire, mais il va falloir que je vous envoie un article dans ce cas-là. Joël Feinberg, que tu fais connaître, c'est un des juristes importants, philosophe juriste important, a écrit un des tout premiers articles, qui est un article séminal, vraiment, puisque l'éthique fondamentale est née pratiquement de ça, de quelle période ça date, c'est 72, un article qui va paraître dans la revue Philosophie, là, au mois de mars, dans le prochain numéro, dans laquelle il utilise ce genre d'argument. L'idée est de dire, est-ce qu'on ne peut pas reconnaître les droits des entités non conventionnelles? Il dit, mais après tout, c'est Jacob. Regardez l'idée de quasi-personne, de responsabilité, d'entreprise comme quasi-personne. Ça n'a rien d'absurde. Pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas? Et vous allez voir, l'argumentation est assez fine. Il faudrait que je vous envoie un exemplaire, si vous voulez. C'est vraiment pas mal.
Et même de déresponsabilisation. Parce que, par exemple, on voit que, par exemple, des gens ont montré qu'on ne résout le problème de la sécurité du travail, hein, c'est la fameuse thèse de... Oui, Evald, que quand on a quitté l'univers de la responsabilité personnelle imputable à une personne physique classique, la personne aristotélicienne, et qu'on l'a dotée, on l'a mise sur une entité collective qui, après tout, est une entité qui n'a pas de qui n'est pas qui échappe à l'anthropomorphisme classique.
Il dit ça dans le gros volume ou dans
Oui, bien sûr. Non, dans le gros volume. Dans le gros volume, c'est l'histoire que... Il a fallu anonymiser. C'est comme la responsabilité, si vous voulez, le fait qu'on note la responsabilité pour dette à des individus qui montaient des entreprises et que ça passe sur une entité collective qui était garantie par un capital qui la crée comme personne, morale ou juridique, a été une clé de la résolution toute bête du problème des accidents du travail. Donc, vous voyez, donc ça joue dans les deux sens. C'est-à-dire qu'en fait, l'école conventionnaliste, et qui effectivement se déconcrétise au sens de la vision strictement anthropomorphique, est à la base de l'invention juridique.
Et alors, moi j'ai une question du coup, parce que je vois que vous connaissez bien toutes ces questions-là. Le concept de valeur d'existence, qu'est-ce que vous en pensez comme rapprochement avec le concept de valeur intrinsèque?
On peut vous laisser tous les deux.
Oh non, on continuera. Alors, il y a certainement des étudiants qui veulent poser des questions.
Des questions d'étudiants, un peu.
Oui.
Je
m'en prie.
Pour le concept de valeur, c'est, voilà, c'est pour ça qu'à un moment je vous l'avais dit, l'éthique mentale cherche à penser, à examiner systématiquement les représentations qui président au rapport de l'homme à la nature. Ces représentations sont comprises essentiellement en termes de valeur. On pense le rapport de l'homme à la nature consiste à assigner à la nature une valeur instrumentale. C'est donc un problème de morale. On reconnaît un certain type de valeur et même une sous-valeur puisque ça n'a de valeur que pour l'usage que j'en ai. Voilà pourquoi on parle d'une régulation.
Morale n'est pas forcément morale judéo-chrétienne.
Non, non. Voilà, en critique, vous voulez dire
Non, mais je veux dire que c'est parce que souvent quand on parle de morale, quand on ne connaît pas.
C'est-à-dire que j'ai pas de compte à rendre à cette chose-là puisqu'elle est là pour me servir. Vous voyez, donc c'est bien un problème de morale.
Oui, tout à fait. Non, mais je suis tout à fait.
Par exemple, quand on revient sur l'exemple de Total, par exemple, le fait de donner une valeur de 40 euros par oiseau,
mais moi j'ai écouté cette décision-là, ça m'a intéressé justement, j'y pensais, j'étais en train d'écrire ce truc-là.
C'était quelque chose comme ça, il pouvait donner une valeur de 40 euros par oiseau.
Enfin, c'est pareil pour l'industrie aéronautique qui paye les prix des vies humaines. D'ailleurs, l'américain plus cher que l'européen et plus cher que l'africain.
C'est fondamental, le prix de la vie humaine. C'est fondamental pour les compagnies d'assurance. Je signale que c'est la base de la comptabilité réelle nationale.
La morale, je pense que c'est ça. Si on tue un oiseau, on va payer 40 euros. C'est ça. Comme exemple, c'est un peu pratique.
Je vous pourrais y aller.
Non, mais parce que si vous mettez 40 euros par... Moi, je ne comprends vraiment pas où on va, parce que si vous dites qu'il y a une valeur intrinsèque justement à la nature, et que vous donnez 40 euros par oiseau...
Oui, moi je vais donner... c'est pour ça que je disais que j'étais gêné par cette décision de justice, parce qu'ils ont dit, j'ai écouté le texte, ils disaient, préjudice, comment était le titre, préjudice naturel, c'est ça la rubrique juridique qu'ils ont inventée.
C'est la notion de dommage ou de préjudice?
Non, c'est central. C'est dommage.
C'est de dommage.
Et en fait,
qu'il y a dommage.
Ils ont dit que c'était l'image du littoral qui avait été dégradée.
Non.
Ça, c'est un immatériel.
Ah bon, non. Je crois qu'il y a 140 millions, de grosso modo, d'amende qui a été faite. Sur les 140 millions, il n'y a que 1 million à titre de dommage à l'environnement. Et le reste, c'est absolument hallucinant. On est vraiment dans le domaine de la valeur des intangibles. C'est
l'image de marque, tourisme.
C'est dommage à l'image, à la réputation et à l'image
de la boule.
De la région. Réputation et image, c'est extraordinaire. Donc on voit bien que derrière, en termes prosaïques, c'est le tourisme qui est en question. Hein. Mais quand même, c'est assez fabuleux.
Donc pour moi, tout ça, c'est quand même anthropocentré. Je ne vois pas bien en quoi c'est une valeur intrinsèque.
Non, parce qu'il y a une brèche. Il y a une brèche, c'est-à-dire que pour la première fois, on est obligé de reconnaître que, en soi, l'acte de démolir, de polluer la mer, entraînera automatiquement une évaluation des dommages. Donc après, on va discuter quelles sont les personnes qui sont concernées. Et si on dit que c'est seulement les personnes humaines, les pêcheurs parce qu'ils n'ont pas pu pêcher du poisson, les hôteliers parce qu'ils n'ont pas pu vendre leur salade, enfin leur salade touristique, on reste dans l'univers purement d'une nature qui est purement à disposition de l'être humain, etc. Purement instrumentale. Je dirais d'ailleurs pas tellement judéo-chrétienne que cartésienne, matière étendue, soumise à la technique, comme on reprend quand on reprend les textes d'Heidegger sur la technique. Mais à partir du moment où quand même on a la notion de dommage global. Et c'est par le global et la globalisation qu'arrive la possibilité, comme d'ailleurs en écologie, le raisonnement écologique, qu'arrive la possibilité de faire apparaître quelque chose qui dépasse l'anthropomorphisme. Quand on arrive à dire « minute papillon », c'est le cas de le dire, c'est bien joli les intérêts des pêcheurs, des machins, etc. Mais derrière, il y a une ressource, ce que les économistes appellent une ressource rare, non renouvelable. Il y a des équilibres écologiques qui, une fois qu'ils sont détruits, ne sont pas restaurables. Donc il y a quelque chose, et là on tombe sur la variété, la préservation de la biodiversité. Donc il y a, et c'est la notion de patrimoine d'ailleurs qui est très importante aussi, qui fait la jonction entre les deux et qui peut donner cours à tout ce qu'on veut. Parce que le patrimoine, ça peut être seulement le patrimoine de Madame Michu ou de Monsieur Dupont. Mais ça peut être aussi le patrimoine collectif d'un pays, d'un ensemble de pays, de l'humanité. De l'humanité. Et si c'est un patrimoine de l'humanité, on arrive très vite à l'humanité des vivants. Et si on arrive aux vivants, on arrive très vite à la biosphère. Donc il y a vraiment, et c'est une brèche, hein, c'est une brèche. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les autres, si vous regardez bien, c'est l'unique raison pour laquelle Total fait appel. Ils se foutent, ils auraient pu payer 500 millions demain matin d'euros sur la table, sans discussion. Même 2 milliards d'euros leur posaient aucun problème. Mais bien, non, ça c'est pour éviter le deuxième procès qui vient. Parce qu'ils vont avoir un deuxième procès sur la. Et c'est pas fini. Mais leur principe, c'est si est reconnu ça, et d'ailleurs Corinne Lepage l'a montré, là, la porte s'est ouverte et c'est un coin dans la porte. Ça veut dire que désormais, il va y avoir une flopée de procès jusqu'à mettre à genoux un certain nombre d'entreprises, ce qui est d'ailleurs la voie classique du droit. La constitution d'un nouveau droit se fait par harcèlement juridique.
Qu'elle apporte l'argent à nos associations de protection des oiseaux, enfin, je sais pas. Enfin, c'était quoi exactement dans ce cas-ci ? Parce que moi j'ai suivi, mais je vois pas exactement. 40 euros l'oiseau, oui, enfin, on va pas le donner à des.
Parce que ça dépend, les personnes qui se sont présentées, il y a le ministère public qui représente l'intérêt général. Ensuite, il y a les personnes qui se constituent partie civile. Les collectivités territoriales, les communes, les associations. Et le langage juridique est tel qu'on ne peut. Sauf la puissance publique. On ne peut, comme partie civile, ne réclamer quelque chose que en tant qu'on a été soit lésé directement. Alors, les associations de protection des oiseaux peuvent dire « Notre fonction, c'est de protéger les oiseaux. Ce truc-là a lésé directement. » Donc, on réclame un déménagement pour les oiseaux. Il y aura probablement des associations de protection globale. Il y aura peut-être un jour des associations de protection globale de la biosphère ou de la qualité de l'air qu'on respire et qui attaqueront systématiquement les gens qui polluent l'air. Ils ont déjà commencé d'ailleurs avec les fumeurs. Si vous regardez bien, il y a un changement fondamental dans la responsabilité vis-à-vis de l'air qu'on respire avec le fait d'interdire de fumer dans des espaces collectifs. Ça, c'est aussi un changement complet de par rapport au droit. Avant, on disait prouver, seul quelqu'un qui est attaqué de cancer du poumon, en train de crever, peut prétend des dommages et intérêts devant la jurisprudence. Mais le mécanisme, c'est toujours qu'il faut qu'il y ait une partie civile.
On prend peut-être deux dernières questions, sinon on ne va pas avoir le temps de prendre de pause.
Je crois que la demoiselle a une petite priorité.
Dans ce cas-là, petite priorité de mademoiselle, après les deux messieurs là. Non, bon, alors un dernier monsieur après.
Ah non, il y en a un autre là. Deux.
Est-ce que justement, comme c'est théorique, c'est très développé dans le monde américain, est-ce qu'il y a d'autres exemples d'application?
Sur le plan politique, quel est l'impact dans les faits, non, c'est un bide total, ils ne sont pas du tout entendus. D'ailleurs, c'est tout le paradoxe des États-Unis, parce que c'est quand même le pays qui a développé la réflexion la plus poussée sur la question des tigres en un moment, et il faut voir comment ils se comportent. C'est quand même la honte. Brian Norton me disait, j'ai rencontré il n'y a pas longtemps, shaming the US. C'est vraiment, on a honte des États-Unis. Quand il arrive dans le pays, il vient faire un discours sur l'éthique environnementale, mais dis donc, t'as vu de ton côté, là, on va pas l'aider devant ta porte. Donc concrètement, non, ils sont pas écoutés, malheureusement.
C'est Total qui a un peu l'un des premiers, c'est la première brèche,
peut-être. Il y a des exemples sur l'Amazonie. Il y a des discussions énormes, si vous prenez Philippe Descola, si vous prenez un Brésilien, donc on a publié dans Multitude, il y a un exemple énorme sur la question des droits de l'Amazonie, qui s'est d'ailleurs accroché à la question des Amérindiens, des tribus, des espaces, etc. Et il y a une discussion énorme, et là, c'est des heurts d'intérêt. C'est des heurts d'intérêt, non seulement des grandes compagnies, mais également des centaires qui défrichent l'Amazonie, que le gouvernement, que les grandes compagnies mettent en avant pour aller repousser les Indiens, etc. Et il y a des heurts sur la valeur intrinsèque de la forêt amazonienne. Pourquoi c'est une valeur? Et les gens disent c'est le poumon de l'humanité. D'ailleurs, c'est intéressant. Quand les gens disent c'est le poumon de l'humanité, que les États disent, mais quand vous avez détruit le poumon que représentait la forêt européenne, vous n'en êtes pas beaucoup occupé. Et là, il y a des grands renvois de... je vous donnerai la référence. Dans ma revue, là, il y a eu quelque chose sur justement un Brésilien très très... Non, non, mais je vous donnerai la référence après. Après, c'est pas la peine qu'on encombre la discussion, mais je vous la donnerai. C'est un Brésilien qui est remarquable, qui vient de temps en temps faire des conférences au Collège de France.
Oui, non, je voulais rebondir sur ce que vous disiez avec la brèche juridique. Il y a quelque chose qui existe déjà à peu près, c'est la taxe carbone dont on parlera demain, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous,
par rapport à l'idée de la valeur intrinsèque, c'est ça que...
Voilà, l'idée de payer pour...
C'est toujours une analyse coût-bénéfice, pour moi, ça rentre toujours dans le même cadre. C'est-à-dire que fondamentalement, on considère qu'il y a quelque chose qui est substituable, c'est pas grave, pourquoi qu'il y a un coût, qu'on mette en place un aménagement comparable. J'ai pas le sentiment qu'on rentre dans la perspective d'une éthique environnementale. Non, l'idée, c'est un petit peu les arbres en plastique, quoi. Pour peu qu'on puisse mettre un arbre en plastique, pour peu qu'on paye finalement, il y a quelque chose qui s'est perdu de façon irréversible, irrémédiable. Donc non, ça me semble assez éloigné.
Voilà. Donc, François, tu avais utilisé le mot. Petite remarque, c'est comme j'ai entendu des choses. Par contre, ce qui m'a frappé conceptuellement, c'est que il s'agit d'un domaine absolument nouveau pour des problèmes absolument nouveaux. Mais alors, c'est frappant comme dans cette présentation, et c'est des auteurs que je ne connais pas du tout, il s'agit de reprendre des catégories extrêmement classiques et de voir si on peut les étendre. Parce que justement, en valeur intrinsèque, tout ce jeu, c'est vraiment une manière de penser qui est effectivement le fond commun. Et la question qui est posée, c'est est-ce qu'on peut étendre la valeur intrinsèque? Et on fonctionne sur exactement les mêmes dichotomies. Il y a des fins en soi, ou il y a la fin en soi, ou il y a ce qui est l'ordre de la personne, puis il y a ce qui est l'ordre du moyen, il y a ce qui est instrumentalité. Mais
Alors, c'est une manière de présenter les choses. Ce que j'ai fait, j'ai centré ce concept de valeur intrinsèque parce que je le trouve frappant, il est étonnant. Dans les présentations que j'ai déjà pu faire, j'ai vu que les gens accrochaient sur ce concept-là. C'est une manière de faire. Norton ne fait jamais appel à ce genre de concept. Et puis, la valeur intrinsèque chez Caldecott, ce n'est pas la valeur intrinsèque chez Rolston. Mais il y a bien des manières de procéder. Et l'idée d'étendre la communauté, pour moi, encore une fois, c'est un des trucs frappants dans l'éthique mentale. Mais il y en a plein qui ne procèdent pas du tout comme ça et qui considèrent que c'est une très mauvaise manière de poser le problème que de le faire en termes d'extension de la communauté. C'est la critique, alors on dirait vraiment un truc de Miami, l'écoféminisme. L'écoféminisme dit, mais vous continuez de parler, c'est exactement votre critique, vous continuez de parler en droit, vous continuez de parler, en fond, vous n'avez pas déconstruit cette tradition-là. Donc il y a bien des courants possibles. Il y a à boire et à manger.
Oui, alors, je n'osais pas prendre la parole, parce que c'est... Je crois que je comprends, mais j'ai un peu du mal à pouvoir utiliser le vocabulaire des potes. Globalement, ce que j'ai envie de savoir, c'est l'argent. Valeur, etc. Si j'utilise ce terme-là avec un statut plus du côté de la gestion, l'argent c'est un fluide, c'est un moyen aussi de communiquer ou d'échanger, etc. Donc il n'y a plus vraiment la notion de valeur, mais c'est plus un moyen qui permet peut-être de réguler les choses. Parce que ça ne veut pas être justement ce moyen utilisé, ça rejoint, et c'est là aussi ça rejoint un petit peu. Vous voulez dire qu'on en reste avec ce schéma de fonctionnement, etc. Oui, c'est un schéma de fonctionnement qui est issu de notre histoire, des siècles et des siècles, c'est résultat, voilà, le résultat, c'est ça, il faut faire avec. Donc comment est-ce qu'on peut maintenant réagir, avec ou sans d'ailleurs, mais il faut réagir, comment est-ce qu'on peut faire?
Prendre en considération cette réalité-là, que finalement ça va se monnayer. Alors effectivement, on peut le faire, mais... il va falloir sortir du cadre de l'éthique environnementale qui parle en termes de valeur intrinsèque. Je crois que c'est pas compatible. Les auteurs dont je parle ne le font pas, d'ailleurs. Ils ne se penchent pas sur ces questions-là, et c'est le reproche qu'on leur fait. Brian Norton leur dit, c'est bien joli vos questions là, sur le sexe des anges, etc. Et pendant ce temps, la forêt amazonienne, elle brûle. Alors on va passer à autre chose, on va pas parler pognon. Maintenant, on va se mettre à la table de négociation, on va accepter le vocabulaire qui y a cours. Ils parlent argent, ils parlent de développement durable, on parle développement durable. On reprend ce truc-là et on essaye ensuite de défendre ce qu'on peut. Enfin, c'est pragmatisme, quoi. Mais dans ce cas-là, effectivement, on sort d'éthique environnementale, enfin, telle que je pense pouvoir la caractériser dans son originalité. On ne parle pas d'argent. C'est des gros mots, l'éthique environnementale.
Moi, j'avais une remarque. Enfin, c'était tout à l'heure, en fait, quand vous avez résumé l'article de Lynn White Jr. qui avait dit le feu aux poudres. Et pour moi, c'est assez paradoxal, puisque finalement, vous dites que l'éthique environnementale est surtout développée aux États-Unis. Et finalement, aussi sur la laïcité, est-ce que c'est pas aussi le rapport au christianisme qui rend un petit peu la nature, son côté sacré et sa valeur intrinsèque
C'est ce qu'on lui a répondu. Il y en a plein qui se sont employés à dire c'est pas possible, c'est une lecture qui est vraiment partiale de la Bible. Il y a plein de passages, il y a de très nombreux auteurs qui ont cherché à présenter la nature de manière très différente, justement comme quelque chose de sacré. On lui a dit mais il y a d'autres religions qui n'ont rien à voir avec le christianisme et qui ont permis une exploitation, une mise à sac de la nature. Enfin, factuellement, je pense que pratiquement tout est faux dans l'article de Lynn White, mais il a eu le mérite, c'est de mettre le feu au poudre. Il a lancé plein de gens sur une. Il a ouvert un chantier extraordinaire, mais je pense qu'il a complètement faux. Comme souvent, par exemple, chez Foucault, tout est faux, mais c'est super intéressant.
Ouais, tout est faux.
J'ai une question qui revient plus sur les fondements, en fait, j'ai du mal à comprendre. À la base de votre démarche, c'est donc vous remettez en cause l'anthropocentrisme qui serait à la base de notre culture, et vous aboutissez sur un système où vous voulez donner une responsabilité de l'homme envers la nature. C'est-à-dire donc avoir des devoirs envers la nature, c'est-à-dire donner à la nature un droit. Et ça, c'est quelque chose qui, enfin, selon moi, c'est très très anthropomorphisme de la nature, justement.
Alors, c'est ce que je répondais tout de suite à M. Sebin. Le concept de droit, il est utilisé dans un certain secteur d'éthique environnementale. Certains considèrent que c'est justement une erreur de méthode que de continuer de parler en termes de droit, puisque c'est une invention humaine, ça n'a sens et d'intelligibilité que dans un monde humain, donc il faut laisser tomber ce concept de droit. Et à la place, il y a celui de devoir. On peut se reconnaître des devoirs à l'endroit d'une entité, quelle qu'elle soit, sans pour autant la penser en fonction de soi, mais c'est plutôt l'inverse. On considère qu'on a des devoirs à son endroit, c'est elle qui nous regarde, et non pas moi qui lui assigne une certaine valeur. Je me mesure à son regard, c'est pas mon regard qui va lui donner la signification.
C'est la pensée religieuse. C'est le sens de la pensée religieuse, autant que vous souhaitez.
Laissez tomber le concept de droit, et ça sera mieux lorsqu'on parle de morale et qu'on se reconnaît des devoirs à l'endroit. Lorsque je me reconnais des devoirs à l'endroit de ma petite fille qui a 5 ans, je ne l'instrumentalise pas. En un sens, c'est son regard qui va me donner une signification humaine. Et la détermination de la communauté que je forme avec elle, elle va venir d'elle et non pas de moi. Voyez, c'est la possibilité pour moi de vivre avec elle qui fait que je vais me reconnaître ou non comme étant un homme doué d'une certaine dignité. Laissez tomber le concept de droit, j'ai l'impression que c'est ça.
Votre fille, c'est parce que justement c'est votre fille. C'est que vous y avez quand même indirectement un intérêt et que ça fait partie.
Je n'ai aucun intérêt. J'ai aucun intérêt.
Dans ce cas-là, vous ne faites pas la société avec d'autres enfants de 5 ans. Enfin, ce que je veux dire, c'est.
Mais je fais ma société. C'est mon métier d'enseignant que de le faire, d'élargir le cercle des enfants qui sont pas les miens.
Vous ne posez pas la question de pourquoi reconnaître. Je suis désolé, j'insiste, mais je n'arrive pas à comprendre. À la base, quelle réponse vous donnez à pourquoi reconnaître une valeur intrinsèque à la nature ?
Je ne suis pas rentré, donc vous voulez dire le mode de démonstration, comment on fait pour prouver un truc pareil, parce que dès lors qu'on reconnaît une valeur intrinsèque, si j'ai bien compris, c'est comme une conscience humaine qui est en train de reconnaître l'existence d'une valeur intrinsèque, ce qui revient finalement à dire qu'elle n'a la valeur que celle qu'une conscience peut lui conférer, c'est ça votre question? Alors c'est encore une fois, c'est un procédé de démonstration, ça c'est le procédé d'un Callicott, il essaye de se tirer d'affaire, je ne peux vraiment pas rentrer dans les détails parce que ça devient affreusement compliqué, ça relève de la métaéthique. C'est pas parce qu'on reconnaît, c'est pas parce que, comment dire, une valeur anthropogénique, parce qu'elle vient de la conscience de l'homme, elle n'est pas pour autant anthropocentrée. C'est ça la petite distinction avec laquelle joue un Callicott. Rolston ne procède pas comme ça. Il parle d'une valeur intrinsèque qui se situe dans le monde, qui est dans la pâte même des choses, mais la conscience humaine découvre les valeurs qui y sont, elle ne les constitue pas. Donc il y a plusieurs procédés. Il faudrait que vous allez voir chez ces auteurs-là, qui prennent les choses très au sérieux et qui essayent d'élaborer un système qui tient le coup.
C'est
ça.
Alors, c'est parce qu'il faut bien rester dans la vie. Parce que justement, parler de droit ne vient pas effectivement essentiellement de tout ce qui a suffi suite au droit de l'homme,
oui,
qui a été largement évoqué dans le système juridique, ça y est, où finalement on n'a que des droits, et apparaît de plus en plus, entre autres avec l'éthique environnementale, cette notion de devoir, qui n'est pas forcément symétrique du droit.
Le droit sans devoir n'a pas de sens.
Mais non, parce qu'on parle tout le temps des droits de l'homme, et pas des droits et des devoirs de l'homme.
Ça va de soi.
Ah non. Dans les textes, il n'y a pas de devoir. Dans les textes.
Il y a des devoirs. Il y a des devoirs, par exemple, celui à commencer par lequel les parents et les parents immédiats ont été contraints de venir à la subsistance de leurs enfants. Hein? Par exemple, des enfants majeurs qui étaient en situation de détresse économique et financière avec des parents qui roulaient sur l'or, eh bien, il y a une loi maintenant publique qui oblige ces parents à prendre en charge les enfants. Et les enfants sont devenus majeurs. Donc,
pas
c'est
dans
un
la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est dans le droit français, c'est autre chose.
Non, mais attends, la Déclaration, ça va de soi. Ça va de soi. On ne fait pas une déclaration de devoir, on fait une déclaration des droits. La déclaration des devoirs, en général, dans les sociétés humaines, sont le fait du tyran. Hein, c'est les tyrans qui commencent par déclarer les devoirs des sujets. Mais la constitution des sujets comme sujets de droit commence par...
Dans
la...
tout contrat...
Non, mais c'est pas le contrat, excuse-moi. Le droit contractuel et le droit, la fondation du droit et du droit public n'a rien à voir avec la fondation contractuelle, sauf si on est un affreux conventionnaliste et un affreux théoricien du contrat, c'est-à-dire Locke, Hobbes et la quintessence de ce qui est l'antithèse du droit.
On
conclura sur cette
prostituée.
Alors,
pendant le cours, si vous voulez, en 10 minutes, 20 minutes, on est de retour.
Vous partez là.
Je vais rester un petit peu.
Un petit peu, d'accord.
Alors,
Yann, je trouve vos interventions très intéressantes.
Je vais faire un. Mais il y a le mail, ça m'intéresserait beaucoup de discuter avec vous. Et même d'ailleurs.
Bonjour.